Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici donc Laurent Martin pour un nouvel enregistrement du cours M4MA001, Histoire culturelle de l'Occident contemporain. Cet enregistrement est celui de la séance 9 qui porte sur les années 70. C'est un premier enregistrement que je vais proposer. Sur cette problématique des années 70 comme décennie marquée par une crise économique mondiale, mais qui touche en particulier les sociétés, les économies occidentales, mais qui pour beaucoup d'esprits de l'époque témoigne aussi d'une crise plus large de civilisation, donc une crise culturelle au sens large, au sens anthropologique du terme. Et c'est ça donc que je vais présenter aujourd'hui, en m'appuyant en particulier sur les travaux qui avaient été menés à l'initiative ou avec la participation au moins du service des études et recherches, le SER, ce service fondé au début des années 60 au sein du ministère des Affaires culturelles en France. Service créé et dirigé pendant de nombreuses années par Augustin Girard, Girard, et c'est par lui que je vais commencer. Donc, je vais consacrer une première partie à l'analyse qu'il fait, lui et son équipe hein, du SER, de cette crise des années 60-70, donc en particulier à travers un certain nombre de travaux que je vais présenter. La deuxième partie de cette séance 9 sera consacrée à l'analyse des écrits et des prises de position d'un certain nombre d'intellectuels, notamment ceux invités par Augustin Girard à un colloque important de 1972 à Arques-et-Senans, Arques-et-Senans qui est cette ancienne saline royale reconvertie en centre culturel de rencontre dans l'est de la France. Dans le département du Doubs exactement. Et donc, en 1972, un séminaire, disons, un colloque séminaire est organisé par le SER et par Augustin Girard, qui invite un certain nombre d'intellectuels à réfléchir sur les questions qui se posent au monde et en particulier aux sociétés occidentales dans une perspective de, et que je vais expliquer assez rapidement, de prospective, c'est-à-dire c'est une démarche prospective qui essaye de réfléchir non seulement au présent, mais aussi à l'avenir, un avenir parfois assez lointain des sociétés. Et puis une troisième partie traitera des mêmes sujets, mais dans une perspective un peu différente, qui est celle des organisations internationales, dans lesquelles, là encore, on retrouve Augustin Girard et un certain nombre d'intellectuels proche de son cercle de pensée, à l'UNESCO d'une part et au Conseil de l'Europe d'autre part. Et puis une dernière partie, j'espère avoir le temps de le faire, mais a priori j'ai pas énormément de pages aujourd'hui, donc ça devrait pouvoir tenir dans le temps que je m'étais imparti. Une quatrième et dernière partie sera consacrée. Alors je ferai un pas de côté en quelque sorte par rapport à ces travaux. De prospectives faites par des historiens, des sociologues, des économistes. Je ferai un pas de côté en présentant une œuvre de bande dessinée d'un dessinateur assez connu à l'époque, qui s'appelle GB, c'est son nom de plume, qui en 1972, si je me souviens bien, 71-72, je retrouverai ça tout à l'heure, propose donc une série de planches de bande dessinée intitulée L'an 1, l'an 01, qui est une forme d'utopie très 68arde, mais post-68arde, hein, en l'occurrence début des années 70, d'une société qui s'arrêterait complètement pour réfléchir à ce qu'elle est, à ce qu'elle veut être. Donc il invite finalement ses lecteurs à à lancer une forme de révolution pacifique par le biais de cette bande dessinée. Et je trouve que cette bande dessinée a à la fois des échos évidemment très importants et elle porte un éclairage particulier sur ces années 70, mais elle a aussi des échos, je pense, par rapport à la situation que nous vivons, d'une société totalement à l'arrêt et obligée, d'une certaine façon, à réfléchir sur son devenir. Voilà, donc c'est le programme du jour. J'espère qu'il vous intéressera et je commence donc par une première partie consacrée à l'analyse de la crise que traversent donc les sociétés occidentales au début des années 70 par Augustin Girard, donc le créateur et le directeur du service des études et recherches, ce service qui va devenir par la suite le DEPS, département études prospectives, justement le mot est important, et statistiques du ministère de la Culture. Alors le vocabulaire et l'imaginaire de la crise sont très présents hein, dans les textes qu'Augustin Girard consacre à définir les finalités de la politique culturelle, notamment justement dans des travaux qui relèvent de la prospective. Alors la prospective, je la définis d'emblée, ce n'est pas une science, même si certains y aspirent. Ce n'est pas vraiment non plus un art, même si on parle parfois de l'art de prospective, notamment Bertrand de Jouvenel qui publie en 1964 l'art de la conjecture, qui relève en fait de cette même démarche prospective. C'est moins un art ou une science qu'une méthode. Une méthode développée dans des cercles d'économistes, de sociologues, dans une moindre mesure d'historiens, en France à partir des années 60, dont beaucoup se regroupent au sein de l'association Futurible, fondée par ce même Bertrand de Jouvenel, Jouvenel, l'association Futurible, qui existe toujours hein, et que vous pouvez trouver facilement sur le net, qui publie une revue et qui organise régulièrement des séminaires et des colloques. Il y a une vogue, sinon une mode de la prospective dans les années 60-70 en France, donc, mais aussi dans le monde, parfois sous d'autres dénominations. Par exemple, on parle de futurologie dans les cercles notamment onusiens. La prospective se distingue de la planification, hein, qui est une autre méthode dont les années 60-70 voient le déploiement. La prospective se distingue de la planification essentiellement par la temporalité, puisque la planification prévoit sur 4 ou 5 ans, tandis que la prospective tente de discerner ce que sera l'avenir à 30, voire 50 ans. Donc, différence en termes de temporalité, différence aussi en termes d'usage, même si prospective comme planification sont des outils de gouvernement, des outils d'aide à la décision politique. Mais tandis que la prospective sert à décrire le contexte dans lequel la planification aura lieu en traçant différentes voies futures que le monde pourrait prendre, en suggérant des objectifs que cette dernière doit permettre d'atteindre, la planification donc a un usage plus immédiat, plus concret. La planification, en fait, a pour objet d'organiser le déploiement d'une politique publique sur le terrain en termes de construction d'infrastructures, d'aménagement du territoire, tandis que la prospective vise à imaginer ce que sera l'avenir, un avenir relativement lointain, pour y préparer les esprits, les préparer aux changements inévitables, dessiner des orientations souhaitables entre plusieurs scénarios possibles. Dans les deux cas, hein, il ne s'agit pas d'approche purement théorique, mais dans le cas de la prospective, d'une recherche tournée vers l'action, et la planification a également un usage tout à fait concret. Alors, dans le texte diffusé dans un colloque international organisé par l'UNESCO à Helsinki en juin 1972, colloque de l'UNESCO à Helsinki qui fait suite au colloque d'Arques-et-Senans du mois d'avril ou mai, et précisément Augustin Girard avait organisé ce colloque d'Arques-et-Senans pour préparer la conférence européenne d'Helsinki en juin de la même année. Donc, dans ce texte diffusé lors de la conférence d'Helsinki, Girard décrit des sociétés occidentales en proie à des changements rapides qu'elles peinent à contrôler. Trois changements surtout lui semblent, je le cite, lourds de menaces. l'urbanisation, l'extension de la production et de la consommation de masse, enfin le progrès des médias audiovisuels et des communications électroniques. L'homme est menacé, écrit-il, par le triomphe d'un habitat et d'un urbanisme fonctionnel, sans beauté et sans âme, qui l'enferme entre les murs de béton des grands ensembles. Il est menacé également par un travail en miettes, répétitif, mécanique, qui le réduit au statut de simple exécutant et lui ôte toute initiative. Il est menacé enfin par une consommation de produits standardisés, de produits notamment audiovisuels, par l'aliénation de loisirs livrés aux marchands. Le bombardement audiovisuel, c'est une expression qu'il utilise et qu'il emploie d'ailleurs aussi dans un livre qu'il publie la même année en 1972 dans le titre est Développement culturel. Ce bombardement audiovisuel donc remplit un temps de loisir qui s'est accru, mais qui, en devenant ou en restant purement oisif, risque d'être perdu pour la culture. On retrouvera ces thèmes dans une note qu'il adressera en 1975 au directeur de l'administration générale du ministère des Affaires culturelles en prévision d'un travail de prospective culturelle. Il évoque les distorsions des sociétés industrielles, il cite la technologie incontrôlée, les villes invivables, la crise de la formation qui provoque la perte du contrôle du développement, la rupture du consensus social et l'isolement des élites. Donc une crise de la culture qui redouble et explique la crise qui frappe les sociétés occidentales à partir du milieu des années 70, qui explique finalement la crise de l'économie industrielle de masse. Ces crises emboîtées l'une dans l'autre, donc crise de la culture et crise économique, marquent, dit-il, la fin de l'humanisme, rien de moins. Une tension se manifeste en effet entre puissance et servitude, la fin du progrès historique, de l'anthropocentrisme, du sens de l'histoire, entre aisance et solitude, le procès du progrès économique, le besoin d'identité, la défaillance de la sagesse transmise. Cette crise engendre des cultures pour la fuite, la consolation ou l'oubli. Avec une marginalisation de la culture traditionnelle, l'émergence de cultures du refus, la domination d'une culture industrielle de masse qui tend à l'évasion dans des mondes chimériques. Toutes ces tendances lourdes, dit-il, mais pas fatales, s'inscrivent dans la perspective d'un futur perçu comme inacceptable, où le plus grand nombre tomberait dans l'indifférence à l'égard de l'histoire, où la coupure radicale entre les élites et la masse ne pourrait se résoudre que dans la violence, où l'alternative serait entre l'hypertrophie de la puissance de l'État et l'explosion des antagonismes socio-politiques. Toutes choses qui, évidemment, résonnent aujourd'hui d'un son tout particulier. Dans le livre cité, donc, Développement culturel, 1972, il énumère pêle-mêle, parmi les effets et les manifestations de cette crise de civilisation, le déracinement, le désarroi, la perte du sens et des valeurs, le refuge des individus dans des consommations et des pratiques d'évasion, de passivité, de désengagement. Des attitudes qui ressortissent pour lui de l'infantilisme ou de l'hédonisme jouisseur et autodestructeur ou encore du nihilisme. C'est le cas en particulier chez la jeunesse, chez qui Augustin Girard constate, alors là, quelques années plus tard, on est en 1986, un désastre culturel et une volonté de rupture parfois violente. Mais au-delà de la jeunesse, c'est toute la société qui manque d'un projet collectif et, selon lui, est en voie de désagrégation, privée de ce ciment moral que constituerait une culture commune. Les artistes et les créateurs ne sont pas exempts de responsabilité dans cet effacement des valeurs communes, dans la confusion des valeurs et des pratiques, dans cette dégradation de la culture comme self-service, des artistes et des créateurs qui cultiveraient, selon Girard, un art trop souvent coupé du plus grand nombre, une forme d'ésotérisme élitiste. Alors, le résumé que je fais de sa pensée est un peu trompeur, évidemment, dans la mesure où ce résumé gomme à la fois les nuances, amalgame des textes d'époque et de statuts très différents, et crée à partir de citations, par définition, tronquer un effet de continuité qui ignore les inflexions propres à une pensée qui se déploie sur trois décennies. Les premières mentions de la crise, crise de la culture, crise de la civilisation, crise des sociétés industrielles, le mot valant pour toutes ces notions, s'enracine, s'origine clairement dans une forme d'habitus propre à cette génération de penseurs marquée par l'expérience de la guerre et de la résistance, hein, c'est le cas de Lucien Girard, pour qui la culture est apparue comme le dernier rempart, mais un rempart fragile contre la barbarie. Plus lointainement encore, on peut y déceler l'inquiétude d'intellectuels européens malheureux, pessimistes, pour qui la société de leur temps est nécessairement une société en danger. Augustin Girard voit dans l'humanisme classique, revitalisé par les sciences sociales, l'une des clés de compréhension, mais aussi de réforme d'un monde moderne menacé par ses excès. Cette attitude s'inscrit aussi, bien évidemment, dans le contexte post-68, avec la critique du modèle de développement des sociétés industrielles, le rejet d'un progrès et d'une croissance uniquement quantitatif et destructeur des équilibres sociaux et environnementaux. Il écrit en 73 « La croissance est culturellement inviable ». On retrouve également l'attention portée à la révolte de la jeunesse, hein. Et on saisit là finalement l'une des caractéristiques essentielles de la politique culturelle qui est reforgée par les responsables français et européens au tournant des années 70. Il s'agit de soigner les maux révélés par cette révolte de 68 en faisant droit à certaines revendications tout en prévenant de nouvelles secousses. Ce qui est souligné finalement dans ces écrits, c'est le décalage entre le bien-être matériel, la prospérité dont jouit la majorité de la population, et son insatisfaction montante, le malaise existentiel dont cette population occidentale, et notamment française, semble frapper. Dans les années 80 et 90, on sera passé à une autre époque, la crise économique s'étant installée dans les faits et dans les têtes, et l'accent sera plutôt mis dans ces années 80-90 sur le délitement d'une culture commune, la nécessaire restauration d'une circulation, voire d'une communauté d'esprit entre ce qu'il appelle les élites et les masses. Je le cite dans un texte qui date du milieu des années 80. Ce qui manque, c'est la capacité de discerner des fins communes, des objectifs partagés, un avenir qui ait un sens. Ces deux éléments, la nécessité d'un progrès plus qualitatif et d'une culture commune, rassemblée sous la bannière d'un humanisme moderne, sont présents au début comme à la fin de la période. D'où cette impression de continuité que j'ai donnée, qui n'est pas fausse, mais avec un déplacement d'accent de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'au début de la période, donc dans les années 70, il met l'accent sur la nécessité de ce progrès qualitatif en lieu et place d'un progrès purement quantitatif, hein, le passage qu'on a tant de fois décrit d'une logique de l'avoir à une logique de l'être. Dans les années 80-90, il va plutôt insister sur cette notion de culture commune qui aurait disparu et donc qu'il faudrait restaurer pour redonner finalement un sens et une perspective à l'ensemble de la société. Dans les deux cas, évidemment, on peut remarquer hein, que le discours scientifique, enfin c'est un discours qui est censé reposer sur une analyse scientifique, notamment des sciences sociales, de l'économie en particulier, ou de la sociologie, ce discours scientifique cède assez rapidement et assez aisément la place à un discours plus axiologique, c'est-à-dire que derrière les constats scientifiques abondent en réalité les jugements de valeur. On peut même parler d'une vision assez moralisatrice, notamment quand il dénonce l'hédonisme jouisseur et autodestructeur, ou le matérialisme qu'il identifie au nihilisme. Ou bien, s'agissant de la perte de la culture commune, quand il passe du constat que l'on peut faire évidemment du pluralisme culturel au regret qui, là, renvoie à une forme de jugement de valeur, au regret d'une culture partagée, tout en opposant de manière assez traditionnelle et peut-être même caricaturale les élites aux masses. Ce qui frappe également, c'est l'insistance d'Augustin Girard à replacer la culture et sa crise dans un ensemble plus vaste, la société et sa crise, sans que la différence entre l'une et l'autre soit toujours très claire, de même que ne sont pas toujours très claires les limites géographiques de validité des thèses soutenues. Est-ce qu'il parle pour la France? Est-ce qu'il parle pour l'ensemble des sociétés industrielles, voire pour l'ensemble du monde? C'est pas toujours clair, il y a une forme d'indifférenciation hein, dans ces textes, et de montée en généralité, mais dont on ne sait pas véritablement quelles sont les limites. J'ai cité tout à l'heure le titre de son livre, Développement culturel, et j'avais indiqué dans l'autre cours sur les politiques culturelles en France combien ce terme de développement culturel avait été important dans les années 70 pour reformuler finalement la politique culturelle française. Cette place centrale accordée au concept de développement culturel a justement pour but, hein, enfin l'un des buts en tout cas de ce concept, l'un des usages de ce concept, c'est d'intégrer la dimension culturelle à l'ensemble du système économique et social. Et donc de montrer combien finalement ces deux dimensions, la culture d'un côté et la société de l'autre, sont étroitement imbriquées. Dans ce texte que je citais, ce texte intitulé « L'enjeu culturel » qui date du milieu des années 80, il s'interroge en ces termes « Serait-ce parce que la société s'aperçoit peu à peu que sa crise est plus culturelle qu'économique, que sa dépression est subjective, qu'elle est affaire d'espoir, de conscience de l'avenir, de sens de la vie, c'est-à-dire de culture ?» Donc c'est cela qu'il montre, hein, et beaucoup d'autres responsables, notamment Jack Lang, auront le même discours, de montrer combien finalement, au-delà des apparences d'une crise économique, en fait la crise que traversent les sociétés, la société française et la société occidentale, est d'abord une crise culturelle. Alors, c'est un diagnostic d'époque qui est partagé par d'autres experts intellectuels, ça sera ma deuxième partie. On peut parler à ce sujet d'un langage commun à ces intellectuels que réunit Augustin Girard dans les colloques de prospective des années 70, 80 aussi, même si bien évidemment des différences se font entendre en fonction des sensibilités personnelles, des points de vue de chacun. Ainsi, Henri Jeanne, qui s'exprime en 1972 à ce colloque d'Arcassonon. Alors, Henri Jeanne, c'est un sociologue belge, expert auprès du Conseil de l'Europe. Et donc, à ce colloque d'Arcassonon, il montre ce qu'il appelle les tendances lourdes dont les pouvoirs et les agents culturels doivent tenir compte dans l'élaboration d'une stratégie pour la culture. L'urbanisation, l'encombrement démographique, la division toujours accrue du travail, la production de masse, tout en soulignant certaines contre-tendances qui peuvent se faire jour. Bon, il parle de l'urbanisation est contrebattue par l'aspiration au retour à la nature, l'encombrement démographique est limité par le succès des politiques de contrôle des naissances, en tout cas dans les sociétés développées, la production de masse se heurte à une forme d'individualisation allant jusqu'au retour de l'artisanat par le biais de certaines avancées technologiques. Donc il y a des tendances et des contre-tendances, mais ce qui est frappant quand on lit donc ce sociologue belge, c'est son insistance, plus encore qu'Augustin Girard, sur les questions d'environnement, de limites physiques de la croissance, et on voit d'ailleurs combien il s'appuie sur les travaux du Club de Rome en 1972, hein, c'est également l'année où paraît le rapport Meadows, du nom du chef de l'équipe Denis Meadows, M-E-A-D-O-W-S, qui dirige cette équipe de chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui donc rédige un rapport sur les limites de la croissance à la demande d'un club d'experts qu'on appelle le Club de Rome. Alors, je fais une parenthèse sur ce rapport Meadows, qui n'a pas de rapport direct avec, disons, la dimension culturelle que je voudrais mettre ici en exergue, mais ça n'est pas non plus sans rapport. Bon, alors, contrairement à une idée reçue selon laquelle ce rapport Meadows aurait prédit en quelque sorte l'effondrement du système mondial avec la fin du pétrole aux alentours des années 2000, il n'a rien prédit de cette sorte. Sa seule conclusion, c'est que la croissance matérielle perpétuelle que connaît le monde, et notamment les sociétés développées, conduira tôt ou tard à un effondrement du système, et que même en étant très optimiste sur les capacités technologiques à venir, sur l'aptitude à recycler ou à économiser les matières premières que nous consommons, le niveau de pollution et l'épuisement des ressources naturelles conduiront donc à un effondrement. Alors, quelque chose qui se produirait non pas au début des années 2000, mais plutôt vers 2100. Par effondrement, d'ailleurs, il ne faut pas entendre la fin de l'humanité, mais, dit le rapport Meadows, la diminution brutale de la population accompagnée d'une dégradation significative des conditions de vie de la fraction survivante, avec une baisse importante du produit industriel, du quota alimentaire. Bref, donc ce rapport Meadows est évidemment est très présent à l'esprit d'un certain nombre d'experts qui réfléchissent aux questions culturelles et qui montrent, enfin qui essaient de montrer en quoi précisément cette crise économique, cette crise du modèle de croissance, cette crise du modèle de développement, elle a des implications, voire des racines, et peut-être des solutions aussi du côté de la culture. Je pense notamment à un autre expert qui s'exprime en 72, un sociologue Dark Essenan, qui est un Allemand, sociologue également, Georg Picht, P-I-C-H-T, qui estime que le développement a atteint des limites au-delà desquelles les coûts induits l'emportent sur les gains, et il prédit qu'il y aura bientôt une discontinuité insurmontable de ce côté-là. Donc, encore une fois, la réflexion sur la culture, sur la crise de la culture au début des années 70 ou au milieu des années 70 n'est pas déconnectée d'une réflexion plus large sur la remise en cause du modèle du développement tel que les sociétés donc occidentales l'ont promu dans le monde. Autre colloque, on est en 78, on est toujours à Arc-et-Senan. Un expert français, celui-là, Jean-François Collinet, C-O-2-L-I-N-E-T, pense, je le cite, que la technologie incontrôlée, le rythme de la croissance urbaine, la crise de la formation constituent trois types de distorsions des sociétés industrielles qui entretiennent une crise de leur culture. La ressemblance d'ailleurs, je note au passage des termes qu'il emploie avec ceux employés par Augustin Girard dans la note de 1975 que j'avais citée, est évidemment, n'est pas le fruit du hasard. Il y a clairement des lectures croisées entre ces deux personnages. Collinet, son intervention de 78 est intéressante parce qu'il cite beaucoup à son tour d'œuvres et d'auteurs à l'appui de son diagnostic. Alors des gens, bon, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais qui sont importants parce que très lus à l'époque et faisant partie de ce langage, enfin construisant ce langage commun de la crise dont je parlais, des gens comme Ivan Illich par exemple, ou Alvin Toffler, celui qui a écrit l'ouvrage traduit sous le titre Le choc du futur, publié en 1974. Alors, le choc du futur, c'est le choc que subit une humanité soumise à la brièveté, à la nouveauté, à la diversité, à l'accélération des choses et de l'histoire. Je cite brièvement Toffler, quand il écrit « Le choc du futur est le stress et la désorientation provoquée chez les individus auxquels on fait vivre trop de changements dans un trop petit intervalle de temps. » Là encore, il y a des échos, je trouve, assez intéressants. Alors, parmi les auteurs également que Collinet cite, on trouve le sociologue Edgar Morin, notamment son livre publié en 1965, Introduction à une politique de l'homme, où on peut lire notamment que le doute qui rongeait depuis longtemps les politiques traditionnelles s'étend jusqu'aux conceptions qui les mettaient en doute. La démocratie n'est plus le mot phare, elle fait problème. Le progrès demande à être réinterrogé. La culture demande à être autre chose qu'un mot nuée ou un nuage abstrait. Ce que ça annonce, enfin ce que ce texte annonce et d'autres évidemment, c'est précisément toute la remise en cause qui va avoir lieu en 68 ou autour de 68 et dont, encore une fois, les colloques dont je parle sont un peu l'ombre portée, sont un peu le prolongement dans les années 70. Une nouvelle ère s'ébauche, hein, selon Collinet, je reviens au texte de Collinet de 78, je le cite, « Tous estiment que nos structures sont sur le point de se transformer profondément et que cette transformation s'effectuera à partir de trois facteurs fondamentaux. Le passage de l'expansion quantitative à la croissance qualitative, on retrouve cette idée hein, du passage du quantitatif au qualitatif, l'exigence d'une plus grande participation de l'individu au processus de production et de décision, enfin une transformation radicale de la conception de la formation. » D'autres colloques en 79, en 80, s'inscrivent dans un peu le prolongement, dans la continuité des précédents. Ils enregistrent l'approfondissement d'une crise. On retrouve ce terme de crise hein, dans tous ces colloques. Une crise qui n'aurait pas fondamentalement changé de nature avec la crise économique qui frappe les sociétés occidentales à partir du milieu des années 70, avec le choc pétrolier. Au fond, c'est toujours la même crise dont on parle avant et après ce choc pétrolier. Les actes du colloque donc de prospective de 79, je cite ces actes, la crise que traversent actuellement les sociétés européennes ne tient pas seulement à une rupture de la dynamique technico-économique, mais aussi à une transformation sociale et culturelle se traduisant par la remise en cause des valeurs traditionnelles, l'émergence d'aspirations nouvelles et la recherche souvent confuse d'un nouveau style de développement. Henri Jeanne, on retrouve Henri Jeanne lors de ce colloque, alors c'est un colloque en 1980 cette fois, dans des remarques introductives au colloque donc de 1980, intitulé « L'indispensable retour aux finalités culturelles », prend pour point de départ les multiples crises auxquelles serait en proie la culture européenne, ou qui constituent son contexte économique, social, politique ou environnemental. Nous vivons, dit-il, le temps de l'incertitude, soulignant que ce temps n'est pas transitoire mais durable. Il s'agit d'une crise de civilisation, écrit-il, et non d'une conjoncture défavorable. Cette crise a commencé au cours des années 60, marquée par les révoltes de la jeunesse, les violences raciales, le militantisme féministe, des contradictions culturelles, dit-il, et par le malaise issu d'un matérialisme sans contrepoids significatif. Aujourd'hui, poursuit-il, donc on est au début des années 80, les héritages culturels sont dispersés, recouverts par la couche épaisse de la société de consommation. Le consensus social s'affaiblit, sinon sous la forme d'un sentiment d'impuissance. On retrouve cette idée hein, que j'avais trouvée déjà chez Augustin Girard, l'idée de la disparition d'une culture commune, d'un langage commun, l'émiettement finalement des univers particuliers. La critique nécessaire au changement est contingenté dans le jeu des médias, dilué, nivelé, interprété dans l'émiettement d'une information surchargée dont le flux est incontrôlable. L'idée donc d'une information qui serait devenue à la fois pléthorique, mais en même temps inassimilable, incompréhensible, parce que précisément bombardant, on retrouve cette idée de bombardement audiovisuel dont parlait Girard, bombardant en permanence les individus qui, du coup, deviennent incapables de discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas dans ce flux continuel d'informations. Il y a d'autres éléments qui sont mis en avant hein, par Henri Jeanne donc, dans ce texte du début des années 80, l'autorité parentale qui serait ruinée, la subculture jeune économiquement intégrée à l'économie de marché tout en lui étant culturellement hostile. En somme, à le lire, rien ne va plus dans les sociétés occidentales. Comme l'écrira un auteur anonyme, j'ai pas son nom, 25 ans plus tard, faisant retour sur cette rencontre d'Arquesenant, alors sur la première rencontre en fait d'Arquesenant en 1972, la déclaration d'Arquesenant est plus ou moins le produit de cette période morose d'auto-analyse du début des années 70, qui voit les intellectuels européens se pencher avec pessimisme, voire défaitisme, sur les aspects les plus funestes du développement, dans le prolongement, au fond, de la contestation étudiante de la fin des années 60. Il y a une forme de continuité, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette séance après la séance sur la contestation étudiante. On voit finalement ressurgir dans le discours des experts, dans le discours des intellectuels du début des années 70, toute une série de thèmes et d'inquiétudes qui apparaissaient déjà dans ce discours de la contestation étudiante. Et c'est une forme à la fois de réponse à cette contestation et en même temps de traduction sous, en d'autres termes finalement de cette contestation. J'arrête là pour ce premier enregistrement et je vais faire un deuxième enregistrement qui va traiter de cette question, mais cette fois dans le contexte des organisations internationales, UNESCO d'abord et Conseil de l'Europe ensuite.